Et c'est la chronique pour la paix avec Ilan Rosinquier. Bonjour Ilan.
Bonjour Léa.
Et ce matin, Ilan, vous êtes en ligne avec un ancien diplomate israélien et ex-porte-parole de l'ambassade d'Israël à Paris. Il s'appelle Yehoshua Amichav et il évoque à votre micro la prise de contact entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou ainsi que les relations israélo-américaines.
Tout à fait. Donc Yehoshua, vous êtes là ?
Oui, bonjour Ilan, bonjour à tous nos auditeurs.
Bonjour. Donc on sait que parfois les contacts téléphoniques sont plus compliqués qu'il n'en a l'air. On se souvient peut-être de cette chanson « Gaston, il y a le téléphone qui sonne, il n'y a jamais personne qui répond ». Sauf que dans le cas présent, le téléphone ne sonnait pas. Jusqu'à ce fameux jour, ce mercredi 27 février, où enfin la sonnerie a retenti et il y a eu ce contact téléphonique tant attendu entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden depuis sa prise de fonction. En faisant appel à votre mémoire d'ancien diplomate, est-ce que finalement ce type d'appel, c'est quelque chose de très important ? Est-ce que les services concernés n'ont-ils pas continué à travailler, à échanger pendant toute cette période ?
Oui, bien sûr. C'est 24 heures sur 24, 365 jours par an. Donc il ne faut pas non plus faire de ce... Comment dirais-je, ce téléphone tellement attendu, longtemps attendu, plus qu'il n'est, mais je pense que il faut lire aussi le petit message envoyé. En général, les présidents américains élus appelaient le premier ministre israélien dans les 2-3 jours, 4 au maximum, de leur installation à la Maison-Blanche. Là, ça a pris 5 semaines. Et encore une fois, sans dramatiser à l'excès, il y a un petit message ici en disant, en manifestant que à partir de maintenant, de l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, les rapports avec, je ne dis pas avec Israël, les rapports avec le gouvernement israélien, avec Benjamin Netanyahou et son équipe, ne seront plus ce qu'ils ont été sous Donald Trump. Je pense que c'était clair pour tout le monde, mais... Probablement, Biden a voulu que ce soit encore un peu plus clair.
Oui, on pouvait s'y attendre. Mais avant de revenir sur cet échange et les comptes rendus qui en ont été faits, est-ce que finalement il n'y a pas eu un effet positif durant cette période ? On a eu l'impression qu'on a assisté un petit peu à une évolution de la façon dont l'opinion publique israélienne et la presse rendaient compte de Biden, dont on avait fait un peu un épouvantail pendant la période électorale où c'était une catastrophe s'il venait au pouvoir. Et finalement, au cours de ces dernières semaines... On a assisté à un rééquilibrage de la présentation de Biden aux yeux du public israélien en mettant l'accent sur le fait qu'il n'était pas aussi défaitiste qu'il pouvait être et qu'il ferait sans doute preuve d'une position assez ferme à l'égard de l'Iran. Enfin, ce n'était plus l'homme à abattre tel qu'il avait été avant les élections.
Et oui, mais Ilan, vous savez, ça fait partie d'un phénomène typiquement israélien qui me préoccupe beaucoup, deux phénomènes typiquement israéliens qui me préoccupent beaucoup. Le premier, c'est l'hystérie ambiante, c'est-à-dire qu'on a réussi quand même à transformer un sénateur Joe Biden, sénateur de l'État du Delaware depuis 47 ans, dont l'analyse des votes au Sénat américain depuis son élection et jusqu'à la fin de sa mandature comme sénateur, l'analyse de ses votes sur le Moyen-Orient et sur Israël montre un soutien constant à Israël, je le répète, pas spécialement aux équipes des gouvernements de droite. Il y a un problème très grave dans cette société israélienne aujourd'hui, c'est que le Likoud a réussi un tour de force quand même à persuader énormément de gens que toute critique à son égard, toute critique à l'encontre du Premier ministre ou du gouvernement israélien est un abandon ou une trahison même parfois de l'État d'Israël. Or, ça n'est pas. Je pense que c'est tellement absurde qu'il ne faudrait même pas en parler. En démocratie, on peut critiquer un gouvernement sans s'en prendre à l'État lui-même. Mais ici, je le répète, ce tour de force a été réussi par Benjamin Netanyahou. Et donc, on a réussi parce que Biden avait effectivement pendant sa campagne, émis des réserves et des critiques sur certains aspects de la politique du gouvernement, en particulier sur les implantations dans les territoires, il avait été noirci et devenu pratiquement l'ennemi d'Israël, j'appelle ça de l'hystérie. Deuxièmement, vous savez, et j'ai mal au cœur à le dire, mais c'est une réalité qu'il faut regarder en face, vous savez que le seul pays occidental, seul pays du monde occidental, du monde libre, dans lequel Donald Trump aurait été réélu haut la main...
C'était en Israël, oui. Voilà. Il aurait dû se présenter là-bas.
Voilà, et moi je trouve ça... Ah non, non, je le laisse aux Américains, hein. J'ai pas besoin ici. J'ai assez de Trump israélien sans lui. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est quand même très grave qu'un leader comme Donald Trump, qui a quand même battu tous les records de cynisme, tous les records de mensonges éhontés, de création de faits qui n'existent pas, qui a sorti l'extrême droite américaine de son placard, y compris les mouvements néo-nazis et suprématistes blancs, qui a manifesté une politique d'une cruauté parfois... insensé, quand vous pouvez arrêter des migrants vous pouvez arrêter les migrants clandestins à la frontière entre Israël entre les États-Unis et le Mexique. Mais vous ne séparez pas les enfants, c'est pas possible. Alors qu'un homme comme ça soit et jouit d'une telle popularité en Israël et était réélu, je le répète, dans un fauteuil ici, je pense que ça se tournait autour des 75-80%, à mon avis, c'est un désastre sur lequel la société israélienne, nous tous ici, on devrait s'arrêter et réfléchir un petit peu.
Alors, revenons sur cette conversation et plus exactement sur les comptes rendus qui en ont été faits. On a l'impression que finalement, ça illustre davantage le parallélisme, je dirais, des positions israéliennes d'une part, enfin du gouvernement israélien et du gouvernement américain, plutôt qu'un véritable contact. Par exemple, Biden a qualifié ce contact de bonne conversation, alors que Bibi, de façon emphatique, a parlé d'une discussion chaleureuse, amicale, en mettant l'accent sur le fait qu'elle a duré une heure. On voit déjà là, au niveau du sentiment, du vécu, qu'on n'est pas tout à fait sur la même ressentition.
Bien sûr, mais ça fait partie des manipulations classiques. Il y a une photo qui a été publiée dans tous les journaux israéliens. On voit Benjamin Netanyahu le téléphone en main et il a un sourire d'une oreille à l'autre. C'est-à-dire que manifestement, il parle là avec le meilleur ami qu'il ait jamais eu pendant toute la vie. Bon, c'est des petites manipulations médiatiques dont Netanyahu est spécialiste et qu'il réussit très bien. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus... il faut qu'on soit prudent, pas non plus décrire une situation qui de divergence et de profonde différence d'approche. Vous savez,
plutôt des nuances.
Voilà, je pense qu'il est évident que les États-Unis veulent réouvrir la page des tractations diplomatiques avec l'Iran. C'est évident, ça a été dit. Mais d'un autre côté, il est évident aussi que l'administration Biden sera sévère et intransigeante. Il n'est absolument pas question de créer un front, américano-iranien et anti-israélien. N'oublions pas que la question du nucléaire iranien ne concerne pas seulement Israël, elle concerne tous les pays d'Europe occidentale, puisque au vu de la portée des missiles iraniens. Donc, jusqu'à présent informé, toutes les déclarations que nous avons de la part de dirigeants européens indiquent aussi une nette volonté de l'Union européenne, une décision ferme d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Simplement, il faudrait qu'on comprenne ici, nous et les Israéliens, que le fait d'avoir une alliance avec les Américains et avec l'Union européenne, il faut l'espérer, sur le nucléaire iranien, ne nous donne pas spécialement le droit non plus de continuer une politique d'acquisition de terres et de spoliation aussi parfois pour créer des nouvelles implantations dans les territoires.
Tout à fait. Alors voilà, justement,
vouloir récupérer Ilan, le nucléaire, la menace réelle et concrète du nucléaire iranien pour faciliter l'entreprise des implantations dans les territoires, C'est tout à fait, comment dirais-je, inacceptable. Et ni les États-Unis ni l'Union européenne ne l'accepteront. Et je les soutiens dans ce refus.
On a d'ailleurs dans le compte-rendu qui a été fait de cet entretien, Biden a souligné l'importance de faire progresser la paix à travers la région, y compris entre Israéliens et Palestiniens, c'est-à-dire il a mentionné les Palestiniens.
Oui, alors ce dont on ne parlait plus depuis 4 ans sous Trump.
Tout à fait, alors que Benjamin Netanyahou, de son côté, a parlé du fait qu'avaient été abordés les accords de paix en général, il n'a pas mentionné les Palestiniens, et la menace iranienne, alors que le terme de menace n'avait pas été, et la menace nucléaire n'avait pas été abordée dans le compte-rendu qui a été fait par le State Department.
Oui, non, il faut faire attention, bien entendu. Vous savez, quand les diplomates préparent un communiqué après des entretiens ou des conversations, enfin, n'importe quelle occasion, effectivement, ils pèsent chaque mot et chaque virgule. Donc, vous faites très bien de relever les dissonances entre les deux communiqués. Effectivement, je crois que Benjamin Netanyahou, qui connaît parfaitement les États-Unis, il a grandi là-bas, il connaît très très bien la société et le monde politique américain. Benjamin Netanyahou, il n'y a personne en Israël de plus conscient que lui qu'effectivement, il a maintenant un autre partenaire à la Maison-Blanche et que vu le rapport des forces, c'est quand même lui qui devra louvoyer et mettre de l'eau dans son vin et pas l'homme le plus fort du monde occidental qui est le président des États-Unis.
Mais est-ce que les relations, actuellement on a la tendance de considérer les relations israélo-américaines uniquement sous l'angle de l'Iran, du nucléaire iranien, est-ce qu'on peut dire que, est-ce que c'est pas une vision un peu déformée, les relations israélo-américaines sont beaucoup plus larges, ils ne se résument pas à cette question-là?
Non, bien sûr, il y a une relation extrêmement proche, certains parlent de symbiose, ça va peut-être un peu trop loin, mais effectivement, oui, n'oublions pas, enfin, il y a un million d'aspects à cette relation, à cette coopération qui, simplement, il faut noter un point qui, pour moi, me paraît très préoccupant, c'est que jusqu'ici, jusqu'à Trump, le soutien à Israël aux États-Unis était bipartisan. C'est-à-dire qu'il était aussi bien démocrate que républicain. Or, comme Benjamin Netanyahou, depuis Obama en fait, ça fait quand même 12 ans maintenant, a mis tous les œufs d'Israël dans le panier du parti républicain, il est intervenu brutalement dans les campagnes électorales américaines, que ce soit contre la réélection d'Obama ou que ce soit maintenant pour la réélection de Trump. Et ce sont des choses qui ne se font pas dans les relations internationales et certainement pas entre pays qui sont alliés et tellement proches. Et ça laisse des traces profondes, certainement au sein du Parti démocrate, chez Biden sans doute, mais dans l'aile gauche du Parti démocrate
également,
plus que probablement. Et je pense que là, Benjamin Netanyahou a commis un impair très grave. J'espère qu'il aura, que le prochain gouvernement israélien qui sera élu après les élections du 23 mai aura la capacité de recoudre tout ce qui a été déchiré dans le rapport entre les deux pays. C'est un rapport vital pour Israël.
Yehoshua, notre temps est terminé. On n'a pas le temps de traiter l'Iran, donc je renvoie nos auditeurs au Zoom qui sera organisé conjointement par La Paix Maintenant et J-Call le 3 mars à 19h heure de Paris, où nous traiterons des questions du nucléaire avec un expert israélien, Alex Greenberg, Dominique Moisy et Clément Terme. Vous trouverez tous les renseignements sur les pages Facebook ou les sites de J-Call ou de La Paix Maintenant. Merci à nos auditeurs. Merci à toi d'avoir reculé ta visite à la salle de sport qui a réouvert depuis hier en Israël au centre commercial et à une prochaine fois. Merci.